amateur.
Il n'y a pas d'armes, l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.
Bonjour à toutes et à tous, il est 13h, vous écoutez le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct de Radio Canu tous les vendredis de 13h à 14h. Aujourd'hui, une émission particulière puisqu'on va se pencher sur la question de la nouvelle convention UNEDIC sur l'assurance chômage. Pour ce faire, il y a avec moi Marie qui est étudiante à l'ENSAT en tant que comédienne. Bonjour Marie.
Bonjour.
Il y a également Jérémy, étudiant à l'ENSAT en concepteur son.
Bonjour.
Manu, qui est au chômage au régime général. Bonjour Manu.
Bonjour.
Et Anaïs, qui est également membre du collectif unitaire 69. Bonjour Anaïs.
Ouais, bonjour à tous.
Mais avant de se pencher sur cette grande question, nous avons un invité. Il s'agit de Samuel Gallet, qui est auteur associé au Centre culturel Théo Argence. Il est venu nous parler de ce qui se passe en ce moment au Centre culturel Théo Argence. Il y a eu notamment une annulation de la plupart, de la grande partie de la programmation pour l'année prochaine, et tout ça est orchestré par la nouvelle équipe municipale UMP de la mairie de Saint-Priest. Pour ce faire, je vais donner la parole à Samuel. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment au Centre culturel Théo Argence?
Oui, bonjour et merci pour le théâtre Théo Argence et le chouette projet de la fabrique qui existe depuis 4 ans de m'inviter. En fait, donc le Théo Argence, c'est un théâtre à Saint-Priest, comme tu l'as dit, et depuis les municipales de mars-avril, donc la nouvelle municipalité est arrivée et a décidé de façon féroce d'annuler quasiment toute la programmation, et pas que la programmation, mais également le projet qui était mené depuis 4 ans par Anne Courel et son équipe. Projet, et pour des raisons qui sont en fait des raisons très simples pour eux, du moins, c'est ce théâtre est trop élitiste. Donc l'argument est celui de dire vous faites un théâtre contemporain, ce qui ne veut rien dire parce que c'est un théâtre d'aujourd'hui, vous faites un théâtre trop élitiste, les gens ne viennent pas, et ce qui est en contradiction totale avec le travail qui est mené dans ce théâtre par l'équipe d'Anne Courel. Donc on est un peu en colère par rapport à cette décision qui nous semble totalement absurde et totalement idéologique, puisque le travail, la singularité, je dirais, du travail de la fabrique et du Théo Argence, c'est de faire du théâtre justement à Saint-Priest, et de travailler en permanence avec les publics, avec les gens, avec les habitants, d'inviter des auteurs contemporains, d'inviter des artistes d'aujourd'hui, voilà, qui travaillent qui à la fois créent dans le théâtre, et qui en même temps sont en permanence en relation, en discussion, en formation avec les habitants de Saint-Priest. Juste, on en reparlera après, mais si je suis à peu près clair, pour donner un exemple, quand l'équipe, donc, de Anne Courel est arrivée au théâtre il y a 4 ans, il n'y avait que 5 projets scolaires. Aujourd'hui, il y en a 50. Donc, l'élitisme prétendu est en fait une manière de simplement d'abattre tout ce qui essaie de collectivement, je dirais, parler de l'époque, parler des problématiques de notre temps, essayer de se rencontrer avec le théâtre, autour du théâtre et dans le théâtre.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus justement de ces projets scolaires? Comment ça fonctionne?
Ben alors, les projets scolaires s'inscrivent dans, il y a le théâtre qui fait une programmation, je dirais, comme tout théâtre, et puis il y a un espace qui s'appelle La Fabrique, qui est tenu par, qui est animé, pardon, par une vingtaine de comédiens qui sont toujours là, et qui donc animent régulièrement des ateliers avec les habitants, avec les collèges, vais y venir, et des comités de lecture autour des textes de théâtre qui s'écrivent aujourd'hui. Donc les ateliers d'écriture ou de théâtre se font en partenariat avec le lycée Forest, notamment, parce qu'il y en a d'autres. Et donc là, par exemple, c'est pendant un an, vous allez, on va travailler avec une classe, on va travailler sur de l'écriture, on va travailler sur du jeu, sur du théâtre, et puis ensuite se construira un spectacle qui sera présenté ensuite en fin d'année au théâtre, avec plein de rendez-vous où les élèves sont invités à venir voir les spectacles, débattre sur ce qu'ils ont vu, penser ce qu'ils ont vu, contester ce qu'ils ont vu, critiquer ce qu'ils ont vu, enfin bref, penser tout ce qu'ils ont vu, quoi, voilà.
D'accord, donc du coup, le projet de la mairie, là, c'est clairement d'arrêter ce travail qui est fait par la fabrique, quoi.
Ouais, le projet, en fait, c'est de dire que leur argument est le suivant, en fait. C'est bon, je l'ai déjà dit, c'est trop élitiste, c'est ennuyeux, et surtout, c'est aux professeurs de faire leur travail. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, en gros, le débat était de dire, enfin, il y a énormément, toute une activité autour du théâtre qui se passe avec les lycéens, avec les collégiens. Et là, la réponse, c'est non, mais les professeurs ont qu'à faire leur travail. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune pensée de comment le théâtre peut aussi être un espace, je vais dire ça entre guillemets, mais démocratique, oui, en tout cas, où ça peut se construire, où une pensée peut se construire, où des rencontres peuvent se construire. Et c'est pas uniquement les artistes qui viennent comme des prêtres ou des gens de haut qui viennent donner la bonne parole comme s'ils savaient quelque chose sur le monde. C'est un moyen de rencontrer aussi et de rendre compte, je dirais, de l'apartheid effarant dans lequel on est aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, dans les centres-villes, on a des espaces qui se font, on a du théâtre, etc. Même si, vous allez en parler après, c'est un peu aussi en danger. Bon, bien sûr, c'est pas que des questions d'intermittents. Et par contre, dans les quartiers, là, on peut pas effectivement travailler des formes sur les peuples, quoi, sur les endroits de tension, des problématiques d'histoire, de politique qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, quoi.
Mm-hmm. Tu me parlais également d'un projet avec le Chili.
Ouais.
Qui risquait donc du coup d'être...
Enfin, qui a sauté.
Qui a sauté, quoi.
Bah, en fait, moi j'ai pu avoir la chance de travailler là-bas pendant un an, en fait, en partenariat. Donc là, j'ai fait pas mal d'ateliers d'écriture, on a fait des spectacles avec les jeunes. J'avais aussi une commande de texte, donc une pièce que j'ai écrite, dont on a présenté une étape en un chantier. Puis après, donc, d'autres travaux que j'ai menés aussi là-bas avec mon équipe. Et puis là, c'était le projet, j'avais fait une résidence avec l'Institut français sur le théâtre politique chilien, sur comment, 40 ans après la dictature aujourd'hui, le théâtre s'empare des enjeux politiques. Mmh. Et Santiago étant quand même, enfin, après le coup d'état de Pinochet, il y a quand même une société néolibérale qui s'instaure au Chili par la violence extrêmement dure. Enfin, c'est un pays, c'est un des pays les plus néolibérales du monde. L'enjeu pour moi, c'était de voir comment dans un pays aussi néolibéral, modèle vers lequel on va de plus en plus aujourd'hui en Europe et principalement en France, comment les artistes de théâtre pensaient cette chose-là, comment ils le travaillaient dans leurs œuvres avec les gens, avec les habitants, etc. Donc le projet était de inviter une compagnie de théâtre chilien et qu'ils puissent venir en fait travailler sur des concepts de migration, sur comment on peut de l'un et l'autre côté du monde penser les représentations qu'on peut avoir de l'autre continent, les désirs de fuir de son pays. Aujourd'hui en Europe, il y a beaucoup en France un peu, mais déjà en Espagne c'est énorme. Enfin là, je me perds un peu, mais l'enjeu c'était de travailler avec les habitants, avec une compagnie chilienne et avec les gens de la fabrique et les musiciens sur les concepts de migration, sur comment on peut rendre compte de ces représentations, je dirais, de l'ailleurs, de l'exil, etc., à la fois sur le thème du Chili et de la France et de ce que j'ai évoqué, et également avec les habitants de Saint-Priest qui sont pour une grande partie concernés par ces questions, soit de façon récente, soit de façon plus ancienne, quoi. En tout cas, qui concerne d'ailleurs pas seulement les habitants de Saint-Priest.
Du coup, la mairie fait sauter une partie de la programmation du Centre culturel Théo Hergens. Et quelles sont leurs propositions? Quel est leur projet culturel en remplacement? En
fait, je crois qu'il n'y a pas de projet culturel, mais ça serait peut-être moi qui suis mauvais. Leur projet culturel est assez simple, c'est de dire le théâtre, bah, c'est pour se divertir, donc on va faire venir les têtes d'affiche. Puisque les gens s'ennuient, donc on va faire venir des têtes d'affiche, on va faire venir de l'opérette, et là c'est exactement ces propositions-là. Et ils disent en fait qu'ils ont été élus par des gens qui souhaiteraient voir des comiques, des comiques, ce qu'il y a de plus en général foireux, et il faut le dire. Et puis surtout, c'est pas seulement ça, c'est surtout ils veulent faire venir des gens qui coûtent très cher. C'est ça qui est très drôle, c'est qu'il y a un discours sur le populaire. Les gens voudraient, soi-disant, comme si les gens avaient forcément une idée claire de ce qu'ils voulaient au théâtre, mais ils voudraient des divertissements. Mais par contre, le prix des places explose, évidemment, ça fait beaucoup plus cher. Et puis, donc il n'y a pas de projet, si vous voulez, en tant que tel, de travailler avec les gens, travailler avec les habitants, de construire quelque chose. Puisqu'ils n'étaient jamais venus, par ailleurs, voir le travail de la fabrique et de N. Courel et du Théo Hergens.
Voilà. Du coup, il dénonce un théâtre, comment t'as dit tout à l'heure,
soi-disant élitiste.
Soi-disant élitiste, mais au final, c'est eux qui vont le rendre complètement élitiste.
Ouais, en tout cas, ils le rendront élitiste, en tout cas en termes économiques, quoi.
Ça va être réservé aux personnes qui ont les moyens,
voilà,
de pouvoir payer une place très chère.
Mais je crois que tout ça va vraiment dans le sens, d'ailleurs, de ce dont vous allez parler tout à l'heure, quoi. Ça va dans le même sens, c'est-à-dire, en gros, on coupe tout, on ne croit plus du tout qu'on peut créer des espaces dans lesquels on va questionner collectivement des représentations, on va travailler ensemble, on va travailler sur le politique, etc. Voilà, et donc on va simplement balancer du produit consumériste auquel les gens qui auront les moyens pourront venir le voir, quoi. Mais il y a même, je crois que ce qui est d'autant plus grave, c'est qu'on n'a pas en face de nous des gens qui sont vraiment au courant de ce que c'est que la culture. Je dirais même, c'est pas forcément des gens qui ont des idées, c'est simplement des gens qui attaquent, qui veulent, par une sorte de revanche un peu larvée comme ça, détruire toute une construction sur 4 ans où les habitants sont extrêmement présents et qui savent même pas vraiment eux ce qu'ils voudraient, quoi. Ils ont une idée vague de ce que devrait être la culture, sachant qu'ils n'y vont jamais. Enfin, la culture ou l'art, eux-mêmes n'y vont jamais.
Voilà. Oui, et puis du coup, ils font venir des personnes qui sont pas forcément des locaux, quoi. Donc, plutôt que de faire travailler des artistes locaux en lien avec la population, ils vont couper complètement ces liens, quoi.
Et puis l'enjeu, pour finir, mais ce que je trouvais très très bien, moi, dans ce projet, c'est que c'était local, c'est que ça s'enracinait vraiment dans un espace précis, et en même temps, ça allait, on allait ailleurs, quoi. Je veux dire, il y avait des auteurs qui étaient invités, qui sont pas des moindres. Alexandra Badea, Mariette Navarro, enfin des Simon Grandjean, qui sont des gens qui écrivent, qui sont reconnus à un niveau national ou international. C'est pas pour faire de la mode, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment ancré dans un espace et dire aussi, oui, on travaille avec les gens dans un espace précis. Et puis on va ailleurs, on ouvre, on essaie de pas rester ghettoisé dans quelque chose. C'est qu'on a tous accès à pouvoir ouvrir sur d'autres espaces, on dialogue avec d'autres territoires, enfin, voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire.
Et donc du coup, une dernière question, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher tout ça? Quelles sont les actions qui peuvent être menées par nous, citoyens, pour dire non, c'est pas ça qu'on veut?
Moi je pense que c'est, là je ne saurais pas trop quoi dire pour une injonction, mais pour ce qui est vraiment local sur ce truc de Saint-Priest, ça vaut le coup de se renseigner, de voir s'il n'y a pas possibilité d'envoyer des lettres au maire, d'envoyer des lettres à la région, enfin de manifester quelque chose sur ce sujet. Après je pense que je crois que c'est Saint-Priest fait symptôme de plein d'autres choses. Et que je crois que nous avons tout intérêt à prendre acte de l'offensive puissante là qui est en train de se mettre en place et de trouver des moyens collectivement. Et ça, je ne suis pas du tout. Je suis comme tout le monde. Hein, je cherche ces moyens-là pour pouvoir reconstruire quelque chose, une alternative face à ce rouleau compresseur.
Voilà. D'accord, très bien. Mais en tout cas, si vous nous entendez, n'hésitez pas donc à envoyer des courriers à la mairie.
Ça peut tout à fait, ouais, plein de courriers à la mairie, ça leur donnera mal à la tête et puis ça sera drôle. Ouais.
Bah, merci beaucoup Samuel d'être venu nous parler du cas du centre culturel Théo Argence qui est en grand danger.
Et qui n'est pas isolé, hein. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y a une offensive de droite, des municipalités qui sont passées à droite, et il y a pas mal de théâtres finalement qui se font retoquer leur programmation et dont les directeurs qui étaient connus pour être des gens qui faisaient du théâtre populaire, du théâtre engagé, du théâtre militant, qui du coup sautent. Moi je pense à Roanne par exemple.
D'accord. Donc faut continuer à se battre pour sauver ces théâtres qui défendent une politique culturelle de proximité. Voilà, merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale avant de passer à la seconde partie de cette émission. vous êtes toujours sur le théâtre de la Gamelle. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée à la question de la nouvelle convention UNEDIC sur l'assurance chômage. Donc avant de rentrer complètement dans le vif du sujet, j'aimerais poser une question à Anaïs. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique sur le début de ce mouvement qui s'est créé à Lyon et aussi un peu partout en France, mais spécialement à Lyon du coup?
Oui, donc du coup, à partir de fin décembre, début janvier, les organisations syndicales de salariés et patronales se sont mis à la table de négociation pour réfléchir en fait à cette nouvelle convention chômage. Il faut savoir qu'une convention chômage, c'est négocié à peu près tous les 2 ans. Et donc, en fait, donc il y a eu des négociations, il y a eu près 5 rencontres qui se sont faites entre les organisations, avec des ruptures d'ailleurs d'audience par les organisations patronales qui sont parties un peu billes en tête, parce que à la base le projet on savait pas trop, mais on savait qu'ils voulaient faire une offensive sur les techniciens du spectacle vivant. Et qu'ils voulaient carrément les sortir du régime de l'intermittence. Donc en fait, on savait pas trop à quelle sauce allaient être mangés en fait les gens. On savait qu'il y avait l'histoire des droits rechargeables, mais par exemple, on savait pas du tout que les intérimaires allaient être touchés par cette convention. Et donc il y avait une sorte de veille et une sorte de mobilisation à chaque jour de négociation. Il y avait des rassemblements qui étaient organisés. Moi, je me souviens pas trop du début, mais en tout cas, le 27 février, on avait lancé un rassemblement devant le MEDEF de Lyon dans le 8e. Et à notre grande surprise, en fait, alors qu'on avait fait que de la mobilisation par Facebook, il y a, boum, 500 personnes qui étaient devant le MEDEF, en grande majorité représentées par des artistes et des techniciens du spectacle. Et du coup, à la suite de ça, bah, il y a eu des assemblées générales qui se sont tenues à la Bourse du Travail, où au début, il y avait, je pense, 10 personnes, 10, 15 personnes. Donc, ça faisait un peu grand comme ça de dire des assemblées générales, mais finalement, c'était quand même le début de quelque chose. Et c'est là qu'est né le collectif Unitaire 69. Et collectif, comme son nom l'indique, unitaire, parce que du coup, qui pose d'emblée la question de on est des chômeurs, on est des précaires, on est des intérimaires et on est des intermittents. Parce que cette convention chômage nous concerne tous, en fait, concerne tous les salariés.
Mmh, tout à fait. Ben merci. Je rappelle que donc avec nous, il y a 2 étudiants de l'ENSAT, il y a Marie et Jérémy. Est-ce que vous pouvez, vous, nous parler du début du mouvement au sein de l'ENSAT? Comment c'est parti? À quel moment ça a pu commencer?
Alors déjà au rassemblement devant le MEDEF le 27 février, il y avait quelques étudiants. Ensuite, on a organisé le week-end de l'AFU, le week-end inter-école. L'AFU, c'est l'association française des futurs usagers du théâtre, qui regroupe en fait les 11 écoles nationales d'art dramatique. Et lors de ce week-end, on a invité Samuel Churin, donc qui est porte-parole de la SAIP, pour qu'il nous parle donc des nouveaux accords de l'assurance chômage et ce qui était en train de se négocier. Enfin, ce qui avait déjà été négocié parce que c'était en mai. Ensuite, un autre grand pas dans la mobilisation à l'école, ça a été autour de l'atelier spectacle, donc le spectacle de sortie des 3e années. Le 16 juin, la première du spectacle a été annulée suite à une AG qu'on avait fait le vendredi précédent, donc le 13, suite à une suggestion en fait de notre directeur et du metteur en scène Jean-Pierre Vincent, qui du fait de l'appel à une mobilisation nationale le 16 juin s'était interrogé et avait soumis à la décision souveraine de l'Assemblée Générale des élèves, savoir si on tenait la première ou pas. Donc ça a donné lieu à des débats très très intéressants. On a annulé la première et s'en est suivi 12 assemblées générales et 12 journées de grève des élèves. Ces journées de grève nous ont permis, alors déjà dans un premier temps, de nous renseigner sur certes le statut d'intermittent, mais pas uniquement, sur tout ce qui est le fonctionnement de l'UNEDIC, l'assurance chômage, etc. Pour pouvoir faire de la sensibilisation au public qui vient à l'école pour voir War and Breakfast, donc le spectacle qui joue en ce moment. Donc du tractage, de la sensibilisation. Pour aussi descendre dans la rue à Lyon en association avec le collectif unitaire, également pour faire de la sensibilisation. Et puis on s'est bien rendu compte que il fallait aussi que cet engouement soudain politique et artistique donc pour ces causes-là, il fallait le pérenniser. Mm-hmm. Et donc on a missionné certains groupes pour organiser une réflexion sur le long terme et toute cette information qu'on est en train de récolter pour la pérenniser pour l'année prochaine, la transmettre, continuer un groupe de réflexion et un groupe de veille, notamment sur les négociations qui sont en train de se tenir. On a également alerté les pouvoirs publics, à savoir le ministre du Travail, lors du week-end inter-école de l'AFU. On lui a écrit une lettre, donc au nom des 11 écoles, ce qui, on pense, a quand même un certain poids. Et là, nous avons écrit également une lettre à Madame Archambault, qui est missionnée pour réfléchir sur la question, pour lui signifier que les futurs usagers de ces secteurs du spectacle sont inquiets et mettent énormément d'espoir en son travail.
Ouais, moi, je voulais juste rajouter par rapport au fait que, du coup, l'ENSAT, en réunion en Assemblée Générale, a... du coup, pris la décision d'annuler la première du troisième atelier spectacle mis en scène par Jean-Pierre Vincent. Il faut savoir que tous les étudiants de l'ENSAT ne travaillent pas tous dans l'équipe de l'atelier spectacle. Et que, du coup, moi, pour faisant partie de cette équipe, ça faisait 2 semaines qu'on faisait des répétitions. Les comédiens, ça fait 3 ans qu'ils travaillent avec Jean-Pierre Vincent pour mettre au point ce spectacle. Et il faut savoir que pour nous, c'était pas une décision anodine. C'était vraiment c'était un déchirement vraiment de pas jouer. Et je pense que c'est aussi les questions qui vont se poser sur est-ce qu'on annule la première d'Avignon. Enfin, tous les spectacles qui sont mis en jeu à chaque fois dans des mouvements comme ça. Enfin, juste pour préciser que c'est plus. Enfin, beaucoup de gens disent oui, quand on est étudiant, c'est facile de se mobiliser, on fait péter les cours et tout. Mais là, c'était vraiment un déchirement pour nous. Ça remet en question plein de choses sur le rôle de la culture, le rôle du théâtre, pourquoi on en fait, est-ce que le message est plus fort quand on joue ou quand on ne joue pas. Et du coup, pour continuer sur ça, c'est aussi, du coup, en annulant cette première, Jean-Pierre Vincent était aussi d'accord pour qu'on l'annule, en sachant que Jean-Pierre Vincent connaît très bien le sujet des intermittents, puisqu'il a été nommé médiateur dans un conflit en 92, il me semble, par le gouvernement. Et du coup, prolonger le fait que les étudiants de l'ENSAT ont maintenu la grève pendant jusqu'à aujourd'hui, ont fait des AG tous les jours, et il y a eu une petite séparation atelier étudiant atelier spectacle étudiant ENSAT. Et juste pour dire que les étudiants d'atelier spectacle ont décidé de continuer à jouer tous les autres jours, tout en étant solidaire de la grève des étudiants et du coup en participant aussi aux AG et aux actions qui avaient lieu la journée, et le soir en jouant, du coup, avec beaucoup de sensibilisation publique, avec de la mise à disposition publique de l'information sur qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce que l'agrément, pourquoi on faisait ça. Une lecture d'une lettre rédigée quotidiennement par Jean-Pierre Vincent, donc du coup lue avant chaque spectacle. Et du tractage de la part des étudiants de l'ENSAT lorsque le public arrivait à l'ENSAT pour voir le spectacle.
D'accord, merci. Donc on va revenir un petit peu plus sur cette fameuse convention. Pour commencer, est-ce que vous, Marie par exemple, tu peux me dire qui a signé cette fameuse convention ?
Donc sont invités à la table ce qu'on appelle les partenaires sociaux, donc c'est-à-dire des représentants des salariés et des employeurs. Donc pour ce qui est du monde salarié, il y avait la CFDT, FO et la CFTC qui ont signé. La CGC et la CGT n'ont pas signé. Mmh. Et le MEDEF, la CGPME et l'UPA pour ce qui est des syndicats d'employeurs ont signé.
Voilà, donc ça fait quelques personnes. Hein. Pour continuer sur cette fameuse convention, Anaïs, est-ce que tu peux nous expliquer, pour que tout le monde comprenne bien, ce qu'est l'UNEDIC, ce qu'est le MEDEF et pourquoi il s'agit d'une convention et non d'une loi ?
Faut revenir un petit peu à l'histoire de l'UNEDIC. Je pourrais pas, malheureusement, pour les auditeurs qui cherchent de l'information vraiment fiable, tout expliquer en détail. Je pense qu'on peut trouver un peu de l'info en cherchant vraiment mieux.
Tout à fait.
Mais l'UNEDIC, ça a été créé dans les années 50, je crois, fin des années 50. Donc c'est pas rattaché à ce qu'on appelle les branches de la sécurité sociale. Quand le Conseil national de la résistance en 45 a créé la sécurité sociale, bah le pays après la Seconde Guerre mondiale était en pleine reconstruction, donc il y avait le plein emploi, donc la question du chômage ne se posait pas à l'époque. Donc quand ça a été créé, cette caisse, donc l'UNEDIC, c'est un organisme qui est chargé en fait de recueillir l'argent des cotisations de notre salaire, ce qu'on appelle le salaire différé ou salaire socialisé. Et du coup, à la base, c'était géré entièrement par les organisations syndicales, les organisations de salariés uniquement, parce que c'est notre argent en fait, c'est à nous. Et puis bah donc c'est sur le principe donc de la mutualisation, on cotise, on reverse, c'est un principe de solidarité très fort. Et évidemment, tout cet argent, parce que ça générait quand même pas mal de fric, hein, finalement, tout cet argent de cotisation, bah au bout d'un moment, en fait, je pense. Je ne saurais pas non plus dire les dates exactes, mais avec le tournant, on va dire, néolibéral à partir des 80-82, sous Mitterrand et compagnie, bah, je pense que là, c'est les organisations patronales ont eu envie de mettre le nez dedans et d'en gérer en partie cet argent qui encore une fois, est à nous. Et puis maintenant, il y a même l'État qui fait partie des gestionnaires de l'UNEDIC, donc c'est ce qu'on appelle tripartite. On appelle ça aussi le paritarisme. Dans le langage syndical, on dit aussi le pourritarisme, pour un petit peu se moquer. Parce que oui, ce fric est à nous et il est géré donc par l'État et par les organisations patronales. Et du coup, bah. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce déficit qui est tant médiatisé, bah, en fait, il est orchestré, il est volontairement mis en place. C'est une sorte de vol organisé mis en place par l'État et les organisations patronales, puisqu'en multipliant en fait les contrats courts, les contrats précaires, les contrats d'avenir et toutes les exonérations de cotisations patronales qui en fait censées faciliter l'emploi vident progressivement ces caisses. Bah oui, ça crée un déficit. Et oui, du coup, bah après, la solution des capitalistes, c'est de dire bon bah il faut payer. Qui va payer? Bah tiens, les pauvres. Bah tiens, les chômeurs, ils vont payer ce déficit créé artificiellement après des années et des années de pompage volontaire où c'est les grands patrons qui eux se sont gavés parce qu'ils n'ont pas payé les cotises de nos emplois, quoi. Donc le MEDEF, bah, je sais pas, c'est un regroupement d'organisations patronales. La plupart, c'est des grandes entreprises du CAC 40, donc des gens qui font des records de profits chaque année. Mm-hmm. C'est pas des petites entreprises qui subissent la crise, c'est pas des PME, c'est pas des... Voilà, c'est eux, si tu regardes leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices chaque année, bah, ils connaissent pas la crise, quoi. Donc,
ça, c'est sûr.
Voilà, donc eux, ils ont signé cette convention. On n'a pas redit la date, mais c'est le 22 mars qu'ils ont signé. Voilà. Et puis, on n'a pas aussi rappelé au niveau de l'historique que ça a été agréé hier par le gouvernement soi-disant socialiste et que ça rentrera en application à partir du 1er juillet pour tous les chômeurs et les intérimaires et les intermittents.
Voilà, bah merci Anaïs. On va peut-être proposer une petite coupure musicale et on revient juste après Michel Legrand. Nous voyageons. Voilà.
Nous voyageons de ville en ville, nous représentons des motos, des bicyclettes et des bateaux, la route est notre domicile. Un jour ici, un jour ailleurs, nous vivons libres et sans attache, lutins farfelus et potaches, nous rend de bonheur en bonheur, préférons au pire le meilleur. Les jolies filles ont les dronesses et le plaisir à la douleur. Nous voyageons de fille en fille, nous butinons de cœur en cœur, à vivre d'elle dans chaque port, à cœur perdu dans chaque ville. Notre vie c'est le vent du large, l'odeur du pain, le goût du vin, le soleil pâle des matins, le soleil noir des soirs d'orage, le sourire d'une enfant sale, la sieste dans le foin coupé. L'amour fou au milieu des blés et le vent frais sur le visage. Nous voyageons de ville en ville, nos lendemains sont incertains. Une blonde vous tend la main, c'est à nouveau la vie facile. Un jour ici, un jour ailleurs, notre vie comme une romance s'élance sur un air de chance, courant de bonheur en bonheur, préférant la joie au malheur. À la bêtise, à l'hypocrisie, la franchise, aux gendarmes, les gens de cœur. Nous voyageons
De fait en fait, on nous désigne de la main. On nous appelle les forains. En vérité, on est poètes.
Un jour sérieux,
un jour rieur. Notre vie joue en alternance la tragédie de l'existence et la comédie du bonheur. Amis à la vie, à la mort. Prince sans peur et sans reproche. Chevalier sans un sou en poche. Par contre, notre cœur est d'or. De ville en ville, du Val de Loire au bord du Rhin, on nous appelle les forains, la route est notre domicile.
Vous êtes toujours sur le théâtre de la Gamelle et sur notre émission consacrée à la nouvelle convention de l'UNEDIC concernant l'assurance chômage qui sera mise en application à partir de début juillet. Donc nous continuons sur ce sujet et la question suivante est celle-ci. Qui est concerné par cette convention? Est-ce que l'un d'entre vous peut me répondre? Manu?
Alors en fait, on parle beaucoup des intermittents, enfin les, surtout les médias, le gouvernement insiste vachement sur les intermittents et compagnie, mais en fait tout le monde est concerné aujourd'hui par cette nouvelle convention. Enfin, à part peut-être les fonctionnaires, mais en réalité ça risque de leur arriver assez rapidement également. Donc en fait il y a les gens qui sont du coup intermittents, les intérimaires qui sont eux extrêmement concernés, qui ont eu leurs droits qui ont pas mal diminué. Il y a les gens qui sont au chômage actuellement, qui vont voir leurs droits diminuer également. Et il y a toutes les personnes qui sont salariées, qui pourraient être au chômage ou qui risquent d'être au chômage, parce que c'est, enfin, comme le disait un peu Anaïs tout à l'heure, c'est leur salaire indirect qui est complètement touché par les patrons, alors que, jusqu'à preuve du contraire, c'est bel et bien leur salaire et pas un don des patrons comme ça qui arrive par magie. Donc du coup, absolument tout le monde est concerné par cette nouvelle réforme, enfin par une réforme, convention.
Très bien, merci. Donc on va continuer et j'aimerais qu'on explique aujourd'hui qu'est-ce que ça va changer pour les allocataires du régime général. On va reprendre point par point, je pense, pour bien expliquer. Tu peux nous expliquer un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est et demain qu'est-ce que ça va changer?
Alors il y a une diminution des indemnisations, une diminution directe du salaire, des sous que les gens vont recevoir. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est à 57,4% du salaire brut. Donc aujourd'hui, on touche cette indemnité pendant un maximum de 2 ans. Suivant le temps qu'on a duré, le temps qu'on a cotisé, ça peut être moins, ça peut être plus sous certaines conditions pour les personnes qui ont plus de 55 ans. Et là, on va passer à 57%. Donc en fait, il y a une diminution brute des indemnités. Il y a les droits rechargeables, on va en reparler tout à l'heure, il me semble.
Tout à fait.
Longuement, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Et il y a aussi l'augmentation des délais de carence s'il y a des indemnités de licenciement. Aujourd'hui, on est sur maximum 72 jours, il me semble, de délais de carence. Et là, ça va augmenter de manière assez importante jusqu'à près de 300 jours, il me semble, si on a des indemnités de licenciement. Alors pour moi, ça, c'est dans une logique d'empêcher les gens de se battre pour avoir des indemnités. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les entreprises qui ferment petit à petit, avec tous les gens qui se font virer pour des raisons X ou Y, on a une augmentation des luttes par rapport à ces indemnités de licenciement. Or, du coup, avec cette nouvelle convention, les gens auront moins d'intérêt de se battre pour ces indemnités puisqu'ils les perdront par la suite en indemnité de chômage.
Juste pour compléter, quand tu dis se battre, c'est utiliser en fait les prud'hommes, voilà, pour obtenir de ce qu'on appelle des indemnités supralégales, une indemnité en fait de licenciement parce qu'on a subi un préjudice grave, donc on se bat au prud'homme pour obtenir cette indemnité. Et avant, on pouvait cumuler avec le chômage parce qu'on se retrouvait sans emploi. Et bah maintenant, en fait, on va vivre sur ces indemnités-là. Et une fois que du coup, ce délai de carence, il va être beaucoup plus important. Et après, seulement on pourra toucher le chômage. Ce qui fait que les gens n'ont effectivement, comme tu l'as dit Manu, plus trop d'intérêt d'attaquer leur patron au prud'homme si c'est pour en fait se retrouver à manger leurs indemnités parce que leur frigo est vide, quoi.
Donc concrètement, ça veut dire que, mettons, je touche 6 000 euros d'indemnité. Ça veut dire que pendant 6 mois, je ne touche pas de chômage. Je vis sur mes indemnités.
Il y a un délai, je ne sais plus lequel, mais en tout cas, c'est une carence qui va être énorme.
Qui est énorme,
quoi. Qui va indifférer, qui est très grand.
Qui augmente jusqu'à à peu près 10 mois, il me semble, maximum, au lieu de 2 mois aujourd'hui, enfin 2-3 mois aujourd'hui.
D'accord. C'est inquiétant. Donc ça, c'était un peu de façon globale ce qui allait toucher donc les allocataires du régime général et du coup les salariés qui vont perdre leur emploi par licenciement et qui du coup ne vont plus forcément aller se battre devant les prud'hommes. Concrètement, par exemple, pour les intermittents, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que Jérémy, tu peux nous expliquer ça?
Oui, alors juste, on va peut-être rappeler rapidement le principe de l'intermittence. Voilà. Et qui devient intermittent? Du coup, c'est régi par les annexes 8 et 10 de la convention UNEDIC. Et en gros, avant 2003, il fallait faire 507 heures en un an pour pouvoir accéder au statut de l'intermittence et du coup l'année d'après bénéficier d'indemnisation lorsqu'on ne travaillait pas. Et depuis 2003, il faut faire 507 heures en 10 mois pour les techniciens et en 10 mois et demi pour les artistes. Donc déjà depuis 2003, il y a eu un durcissement des règles. L'objectif était de diminuer le nombre d'intermittents parce que ça croissait de manière exponentielle. Et du coup aujourd'hui, tout ça est remis à plat. On nous l'avait promis depuis quelques années. Chaque année, on nous dit les intermittents, il va falloir remettre le système à plat. Il y a beaucoup d'organisations depuis 2003 qui sont créées. Il y a un comité de suivi qui est régi par des parlementaires de tous bords, par des spécialistes qui ont un certain nombre de propositions. Et tout ça n'a pas été entendu lors de la négociation des conventions UNEDIC, donc c'est aussi le souci et un peu la légitimité de la revendication des intermittents face à cette convention. Et du coup, quand le MEDEF est arrivé à la table des négociations, tout simplement la proposition de Gattaz était « on supprime l'annexe 8 et 10 ». Donc on peut se dire qu'il y a eu débat avec les syndicats et que finalement ils ont réussi à conserver l'annexe 8 et 10, donc c'est peut-être aussi une raison pour laquelle certains ont signé, bref. Et du coup, en échange de conserver l'annexe 8 et 10 dans la convention UNEDIC, il y avait quelques durcissements des règles au niveau des intermittents, à savoir une hausse de 1% des cotisations salariales et patronales, donc 2% au total, en sachant que dans le contexte actuel, ou même si le budget de la culture a été maintenu pour les autres années, le coût de la vie augmente, le coût des matières premières augmente, donc et en plus derrière il y a cette augmentation de 1%, donc forcément ça va se répercuter sur les places de spectacle et tout, donc forcément à un moment il y a quelqu'un qui va payer ça et donc ça pose problème, c'est cette augmentation de 1%. Il y a également l'instauration de ce délai de carence qui était déjà présent au régime général, donc du coup le principe c'est tu attends avant de percevoir des indemnités. Du coup ça veut dire que pendant certains, enfin en tout cas avant de toucher tes indemnités, si t'as pas de boulot, t'as rien, quoi, t'as pas de sous. Donc certains, en tout cas les premiers mois doivent être je suppose assez difficiles si on tombe dans ces cas-là. Donc en savoir qu'il y a eu quand même des modifications entre le premier accord qui a été signé et celui qui a été agréé, où du coup les intermittents les plus précaires, en tout cas ceux qui gagnaient le moins, je crois, sont épargnés de ce délai de carence. Et en tout cas derrière, Manuel Valls a fait cette proposition que ce délai de carence, si agrément il y a eu, serait pris en charge par l'État, mais bon du coup ça induit beaucoup de problèmes et ça détourne aussi pas mal de choses, et du coup enfin ça pose d'autres problèmes. Mais en tout cas ce délai de carence, pour l'instant on sait pas trop, enfin du coup c'est pris en charge par le gouvernement, et enfin en tout cas nous on trouve ça pas logique et ça.
Je reviendrai justement sur la question de la proposition de Manuel Valls, c'est pourquoi elle est pas vraiment recevable.
Et ensuite un troisième truc, c'est l'abaissement des plafonds mensuels qui prend en compte les indemnités versées ainsi que les salaires, et du coup qui pose problème parce que du coup c'est un plafond mensuel. Et du coup, en sachant en tout cas dans le spectacle vivant, quand on commence à monter des pièces de théâtre, c'est pas un projet qui se fait en un mois. les gens réfléchissent en amont, des mois avant, ils sont pas forcément payés avant, ils sont surtout payés quand ça commence à répéter et à jouer, et du coup, logiquement, le cumul de cachets se fait généralement sur le dernier mois de création, et du coup, les intermittents disent, ce système, l'idée est peut-être bonne, mais c'est absolument absurde de calculer ça mensuellement. Parce que du coup, ça veut dire qu'un mois, tu vas dépasser de ton plafond et du coup, tu vas perdre des indemnités derrière. Mmh. Et les autres mois, tu vas rien gagner parce que t'étais en création en amont et du coup, t'auras aucun cachet à déclarer. Et bon, en gros, on se fait avoir, quoi. Donc du coup, les intermittents ont énormément de propositions derrière, notamment par le biais du comité de suivi, du CIPIDF, avec leur porte-parole Samuel Churin. Les intermittents ont des choses à proposer, beaucoup doutent des négociations qui commencent, mais en tout cas, les intermittents aujourd'hui se mettent en éveil, en veille par rapport à ce qui va se passer, et des mobilisations continuent sur le mois de juillet-août pour maintenir une pression, pour dire nous en fumez pas, on est là derrière, et on veut que ces négociations aient vraiment lieu, et que tout soit écouté, et que on tombe d'accord tous ensemble et pas que ce soit géré que par certains qui ne nous représentent pas.
Concrètement, quand on dit date anniversaire sur 12 mois, etc., 10 mois, 10 mois et demi, ça peut paraître un peu abstrait, mais là, concrètement, avec ce délai de carence, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui vont être exclus de ce régime et qui vont donc du coup tomber dans le régime général. Je dis tomber, c'est vraiment ça, parce que le régime général ne correspond absolument pas à la réalité de ces métiers qui enchaînent des contrats courts.
Voilà, il n'est pas adapté pour des contrats courts successifs ou
donc
ou pas.
Ça a une réalité sociale concrète et assez dramatique quand même.
Donc justement, je rebondis parce qu'il y a également les intérimaires qui sont concernés. Est-ce que l'un d'entre vous peut m'expliquer un petit peu qu'est-ce que ça peut changer pour ces intérimaires? Quelles sont les conséquences?
En fait, moi je pense que je peux pas l'expliquer. Ouais. Je sais juste en fait qu'il y a en moyenne entre 20 et 300 euros de salaire mensuel qui va du coup leur être amputé, parce que l'annexe 4 qui fait partie donc de la convention UNEDIC et qui régit le statut spécifique des intérimaires, elle a complètement été laminée, supprimée, je crois. Manu me fait non de la tête. Non.
Non, elle n'a pas été supprimée, mais elle a été, elle a été réduite à néant, et du coup effectivement ça leur fait un manque à gagner en moyenne de entre 200 et 300 euros, il me semble, par mois, pour quelqu'un qui travaille plus ou moins à temps plein.
Mais du coup, j'en profite pour dire que lundi soir, à la Bourse du Travail, à 18h, on fait une réunion publique, notamment avec des syndiqués de l'intérim, qui peuvent nous expliquer justement en détail la question de l'intérim, qui, je pense, fait partie des secteurs qui sont le plus touchés, en fait, par cette nouvelle convention chômage.
Et puis, du coup, ce qui est risqué pour eux, c'est qu'ils vont se retrouver complètement au régime général, qui n'est, comme on l'a dit, pas du tout adapté pour les contrats courts. Et on sait qu'en intérimaire, c'est comme les intermittents, c'est souvent des petits contrats, des CDD qui peuvent aller... un CDD, ça peut aller d'un mois à 6, et puis on ne sait jamais quand on va pouvoir... quand une agence d'intérim va nous reproposer un autre contrat. Donc,
Voilà, en fait, à l'école, on s'est un peu penché sur la question, parce que pour nous, de dire que ce que nous le réclamons pour tous, on voulait que ça ait un sens réel, et on s'est dit, ok, donc on commence à être un peu expert, ça serait un peu prétentieux, mais on commence à s'y connaître niveau 8 et 10, mais l'annexe 4, qu'est-ce que c'est? On a des administrateurs très compétents à l'école qui ont essayé de nous expliquer un peu le gros de la réforme. Donc en fait, il y a deux types d'intérimaires. Il y a ceux qui sont un peu en free, enfin, il y a ceux qui dépendent des boîtes d'intérim et les autres.
D'accord.
Et en fait, c'est ceux-là qui vont être complètement ramenés sur le régime général. Et donc, du coup, ça crée un espèce de monopole des boîtes d'intérim. C'est-à-dire que pour être intérimaire, maintenant, tu ne peux que dépendre d'une boîte d'intérim, sachant que être inscrit en boîte d'intérim ne te permet pas de choisir ton patron et tu peux pas avoir tu peux avoir qu'un seul contrat à la fois. Par exemple, avant on pouvait, en étant intérim, on pouvait bosser pour je sais pas un hôtel, faire de la restauration dans un hôtel le matin, le petit-déj, et ensuite partir faire de la restauration collective le midi pour une ville ou qu'importe. Ça c'est pas possible maintenant.
On pourra plus.
Les boîtes d'intérim te permettent d'avoir qu'un seul patron par durée de contrat.
D'accord.
Donc ça crée un monopole des boîtes d'intérim et ça précarise en plus les intérims, enfin tout, donc c'est les intérimaires qui vont passer dans les boîtes. Et ensuite, bon, je vais pas trop rentrer dans les détails techniques que je maîtrise pas complètement, mais un peu comme le même système pour l'intermittence, où donc on est passé de 12 mois pour faire 507 heures à 10 mois ou 10 mois et demi. Là, actuellement, ils doivent faire, oui, donc s'ils passent en régime général, ils doivent faire 210 heures en 28 mois, mais sachant que une journée de travail c'est 10 heures pour un intérimaire, donc c'est beaucoup. Et en passant au régime général, une journée de travail c'est 5 heures. Donc en fait, ça multiplie par 2 leur journée qu'ils doivent travailler pour ouvrir leurs droits.
Voilà, bah merci Marie pour ces précisions. On va continuer parce qu'il y a également les chômeurs seniors qui sont touchés. Anaïs, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, tu m'en as parlé un petit peu hier, ce que ça va changer pour ces seniors?
Alors, si j'ai bien compris, alors vous avez apparemment été plus, vous avez plus d'infos que moi à l'INSET, vous êtes plus sérieux. Non, moi, si j'ai bien compris, c'est que donc sous le gouvernement de Sarko, l'allocation équivalent retraite avait été supprimée. Je crois que ça fait partie d'une des mesures qu'il a mis en place dans ces deux dernières années de mandat. Mm-hmm. L'allocation équivalent retraite, c'est quand t'es au chômage et que t'as l'âge légal pour partir à la retraite, donc t'as un peu plus de 60 ans, mais que t'as pas toutes tes années de cotisation pour prétendre à une retraite à taux plein. Donc il existait donc une période où tu pouvais toucher le chômage, bénéficier. Je déteste utiliser ce mot bénéficier parce qu'en fait on tombe dans la terminologie du coup et l'hégémonie en fait du coup patronale, parce qu'on bénéficie pas du chômage, on le subit quoi. Bon, en tout cas ils étaient allocataires de cet équivalent, enfin du chômage, pour arriver jusqu'à la retraite. Donc là, apparemment, avec cette convention chômage, j'imagine que les syndicats consignés doivent trouver ça génial. Eh ben, on peut être allocataire du chômage, sauf que il y a une ponction faite sur cette allocation chômage pour aller jusqu'à la retraite, qui est hyper importante. Je crois que tu as les chiffres sous les yeux, Amandine, mais je crois que c'est genre 6%.
Justement, je suis en train de chercher, je les ai pas sur moi, mais oui, c'était pas loin de ça.
Enfin, en gros, c'est les chômeurs seniors qui vont financer à hauteur de genre 6% l'UNEDIC, pour financer en fait l'assurance chômage. Ils appellent ça l'allocation de solidarité ou je sais pas quoi. Donc en gros, c'est déjà les gens qui sont déjà dans une précarité, qui sont voilà, qui sont vraiment peu de chances de retrouver du boulot vu leur âge, qui du coup doivent financer ça quoi. Parce que ce qu'on dit pas, c'est pourquoi, enfin, ah ouais, t'as
alors là, j'ai le chiffre, c'est contribution spécifique de solidarité de 6,4%.
Ouais, c'est énorme quoi.
Voilà, donc ça précarise en plus ces personnes qui sont seniors et qui n'ont pas encore la retraite et qui seront au chômage quoi. Ça les précarise complètement.
Ouais, c'est ça.
Bah merci pour nous avoir éclairé sur cette question. Donc on l'a bien compris, tout le monde est concerné par cette convention.
Je sais pas si on en a parlé, parce qu'il y a aussi le syndicat CGC, le syndicat des cadres, qui a refusé de signer cette convention parce que les cadres sont aussi touchés avec ce délai de carence. Si ils ont un chèque de départ, du coup, ils ont aussi un délai de carence de 180 jours. Mmh. Donc, voilà, il n'y a pas que les précaires. Je ne sais pas si un cadre peut être précaire, sauf s'il n'a pas de boulot aussi. Mais bon, du coup, il n'y a pas non plus que... Ah, tout le monde est concerné, ouais.
Voilà, tout le monde est touché par cette nouvelle convention. Donc, on a beaucoup entendu parler des droits rechargeables. Est-ce que l'un d'entre vous peut expliquer à nos auditeurs, parce que moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que c'est, j'aurais beaucoup de mal à expliquer. Alors, en quoi consistent globalement, de façon très simple, les droits rechargeables?
Donc, les droits rechargeables, ça a été présenté en fait comme une avancée, et c'est une des raisons pour lesquelles les directions des syndicats consignés ont signé. En fait, il faut savoir qu'actuellement, le chômage, on peut toucher le chômage jusqu'à, enfin, pour une durée maximale de 28 mois. Et avec l'instauration de ces droits rechargeables, si on trouve un boulot, enfin, si on est au chômage mais qu'on travaille en même temps, pour avoir droit à ces droits rechargeables, il faut avoir travaillé 150 heures. Et bah, du coup, ces reliquats, en fait, de chômage sont immédiatement recalculés pour prolonger l'allocation chômage. Donc moi, je me suis interrogée pas mal là-dessus, parce que c'est vrai qu'on critique ce truc, et je suis allée sur le site de l'UNEDIC pour voir un peu concrètement ce qu'ils en disaient. Et donc il y avait un tableau de simulation où ils expliquaient justement comment ça se passait les droits rechargeables. Donc avant, quand tu travaillais et que t'étais au chômage, t'envoies ta fiche de paye à Pôle emploi, ils calculent à quoi, combien ça correspond, et puis en fait ils t'enlèvent une partie de ton indemnisation chômage, mais ils la décalent, en fait t'as du chômage plus longtemps, en fait t'as décalé d'autant plus de jours ton indemnisation chômage. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que du coup ils recalculent, ils remettent en branle, en fait, la machine à calculer, et en fait ils recalculent le chômage en t'enlevant 70% de ton salaire, et du coup il le soustrait, en fait, à ton indemnisation chômage. Et sur le tableau de l'UNEDIC, si vous allez sur le site de l'UNEDIC, en fait, et que vous regardez la simulation, c'est assez clair, en fait, c'est que actuellement, bah, c'est déjà pas grand chose, mais avec les droits rechargeables, on va être encore indemnisé de manière encore plus basse, quoi. On va encore perdre des indemnisations chômage avec ce tour de passe-passe et ce chiffre de 70% qui sort du chapeau et que personne ne comprend. Même moi, je me suis vraiment interrogée sur comment ils calculaient ça, quoi. Ouais. Donc finalement, les syndicats, ils disent, bah, c'est une avancée parce que on n'arrive pas en fin de droit. Donc fin de droit, ça veut dire arriver au RSA, quoi, quand on ne retrouve pas du boulot. Donc vivre avec 400 et des brouettes euros par mois. Mais en fait, c'est en rien une avancée sociale. C'est ça qu'il faut réussir à dire, c'est que même le mot droit rechargeable, c'est le fait que du coup, c'est des reliquats de chômage qui vont être calculés, mais sur un taux, en fait, d'indemnisation plus basse qu'avant. Et finalement, c'est maintenir des gens dans la précarité qui vont chercher des petits boulots de merde, des petits jobs précaires de 150 heures pour recharger leurs droits, pour pas arriver en fin de droit. Finalement, en fait, c'est une machine c'est faire une pression indirecte à la baisse des salaires de tout le monde, parce que plus on trouve du boulot précaire, moins on cotise, moins on cotise, plus il y a des déficits, plus il y a des réformes et des offensives patronales pour réformer le système de solidarité, de répartition de tout le monde, quoi. Donc ça reste dans une logique, en fait, générale pour augmenter les bénéfices de certains, quoi.
D'accord, merci pour m'avoir éclairé. Moi, je crois enfin un peu compris en quoi consistaient ces droits rechargeables. Je vais vous proposer une petite pause musicale avec une reprise de Brassens, La Tondue. Voilà.
Dans mon quartier, papa fait le fion, nena école si moi en couillon. Mon patate, mon savate, des d'oiseaux, tu prends mon poème fatra. Où les siens m'en moune, n'y en vase pas personne. M'y vende mon bazar, sur sous-aïe causonne. Souvent de moune, n'y aime pas pourquoi, oui, rentre pas dans ce train ou tué. Non, va de moune, n'y aime pas pourquoi, oui, rentre pas dans ce train ou tué. Tout de moune, n'y bat la langue là. Pas que bonne parle pas, ça t'y gagne pas. Le jour la fête 14, il est mis t'attendez si mon zoye. Zot musique en la met la loi, à moi la parle avec ça. Vous laissez à moi mon mien vase pas personne. Qu'en m'y accoute pas, zot clairon quand il sonne. Souvent du monde n'y aime pas pourquoi, oui, rentre pas dans ce train ou tué. Non, va du monde n'y aime pas pourquoi, oui, rentre pas dans ce train ou tué. Domounia monte à moi le doigt. Pak la mouillon, lina poil le bras. Quand mi ouin demi sa peau bleue, pourquoi des yens volent, elle vente les creux. Mi passe un calou au bon dessin hier, demi sa peau bleue, y pète à terre. Où les siens mouin moun, n'y en valent pas personne. Qu'aime la quitte sa peau voler un concombre. Mande mon n'y aime pas pourquoi, oui, rentre pas dans ce train ou tué. Non, va tout mon n'y aime pas pourquoi, oui, rentre pas dans ce train ou tué. Tout mon n'y saute si moi baya. Bonne gongon qui, ne zotigay pas. pas besoin ou les grands familles. Pour oise, tu veux battre mon mari. Rodé, côte, wizard, nourrit, tout pendant à moins, mais à moins d'un tout. Où les siens, moi, mon, n'y en valent pas personne. Mi film pas à mal, mi pas mal, rond. Somme du monde, n'y aime pas pourquoi, oui, rentre pas dans le train au tuy. Non, va du monde, n'y aime pas pourquoi, oui, rentre pas dans le train au tuy.
Vous êtes toujours sur le théâtre de la Gamelle et sur une émission consacrée à la question de la nouvelle convention UNEDIC sur l'assurance chômage. Donc ma question est la suivante. Pourquoi la proposition de Manuel Valls n'est pas recevable et est inacceptable? Est-ce que l'un d'entre vous peut me répondre?
Oui, alors en fait donc Manuel Valls le 19 juin a dit... que bon, déjà il a dit qu'ils allaient agréer alors que nombre de personnes a dit que c'était pas possible, mais bon voilà, ils ont signé et pour calmer le monde de la culture et les intermittents du spectacle qui en fait ont en main très concrètement les festivals d'été et qui peuvent les faire sauter en se mettant en grève. Mmh. Il a donc dit que l'État prenait en charge, donc neutralisait le délai de carence pour donc les annexes 8 et 10. Donc c'est-à-dire que les travailleurs du monde du spectacle deviennent subventionnés par l'État. D'ailleurs, on ne sait pas quel ministère. On a tout de suite pensé, oh là là, ça va être la culture, ça va prendre sur les budgets. Alors qu'en fait, on cotise, enfin les travailleurs cotisent et donc ont un droit juste tout à fait légitime et normal à recevoir des indemnités. Il est pas question de se faire subventionner parce que effectivement on est les intermittents du spectacle sont des acteurs majeurs du monde de la culture, mais c'est pas une raison pour qu'ils deviennent des subventionnés. Donc et en plus du coup, vu que c'est ceux qui faisaient le plus de bruit et qui posaient le plus de problèmes, comme ça a écarté ces travailleurs là protestataires de la contestation. Comme ça, ça les isolait encore plus du reste du monde du travail, quoi. Donc ça, tout de suite, il y a eu protestation. Oui, vas-y.
Ouais, non, c'est pour calmer la mobilisation, comme tu dis, quoi. Juste pour dire que du coup, bah, si on règle la question des intermittents, bah, du coup, bah, c'est bon, tout le reste peut passer, quoi.
Et en plus, dans sa proposition, donc, il disait qu'il allait sacraliser les budgets de la culture. Bon, ça, on peut dire que c'est plutôt pas mal de sacraliser les budgets. Ça veut dire que pendant 3 ans, le budget va pas être revu à la baisse. Seulement, en fait, un budget qui n'est pas, enfin, qui est fixe, c'est un budget qui baisse, étant donné que les charges augmentent, et que du coup, les dépenses des lieux, des compagnies, tout ça augmente en fait. Et donc c'est une baisse un peu maquillée. Mais pareil, effet d'annonce. Et puis il a aussi dit qu'il ouvrait des négociations avec des représentants du monde de la culture. Donc ce qui va se faire. Alors ça c'est très bien. Sauf qu'en fait c'était déjà dans l'accord. Donc il nous a sorti ça un peu c'est bon, j'ai trouvé une solution. En fait, on va se mettre autour de la table et on va parler. Mais en fait c'était déjà dans l'accord. Donc et puis en plus, il compte juste qu'il signe un accord qui peut être remodifié ensuite. Enfin,
d'accord.
C'est complètement illogique.
Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'en 2003, le gouvernement avait déjà fait le coup de « on va compenser », etc. etc. Et 2 ans après, il s'était complètement désengagé. Et du coup, aujourd'hui, on voit que les intermittents galèrent beaucoup plus qu'à l'époque. Donc du coup, les effets d'annonce de Manuel Valls, aujourd'hui, elles prennent pas. Et je pense que c'est parce que les gens qui se sont fait avoir une fois ne se font pas avoir 2 fois.
Tout à fait, ouais. Ok, merci. On va revenir un peu sur le collectif Unitaire 69. Et je voulais vous poser cette question. Comment s'organise le mouvement?
Le mouvement s'organise avec des assemblées générales qui sont souveraines, qui prennent des décisions avec des votes à la fin des assemblées générales. Il y a des commissions qui sont créées, une commission action, une commission communication, une commission élargissement de la mobilisation pour justement étendre la base militante, pas que à des intermittents, mais aussi à des intérimaires, des chômeurs de précaires. Donc je rappelle aussi que du coup, lundi soir à 18h à la Bourse du Travail, il y a une réunion publique d'information auxquelles sont fortement, fortement conviés les intérimaires et les chômeurs. enfin ou même tous les salariés du régime général, hein, parce que salarié, ça veut pas dire salarié à vie.
Non, malheureusement non.
Et puis bah du coup bah concrètement l'arme de la mobilisation c'est la grève. Il y a un appel à la grève à partir du 4 juillet. Pour les chômeurs c'est plus compliqué de faire grève, mais ce qui est possible c'est quand même c'est aussi d'avoir une pression, un rapport de force collectif en fait pour bah voilà mettre en place cette autodéfense qui est importante à mettre en place quoi.
Oui, bah plus il y aura de monde, plus ça aura du poids et plus on sera écouté. Ouais. Enfin, voilà, là on a
et
vraiment besoin de
tout. Ils auront la possibilité justement de juste dire bon bah voilà, on règle la question intermittente et puis bah le reste passe quoi. Mm. C'est pour ça que c'est important et c'est important, on le disait en off un peu, c'est important que du coup l'ensemble du salariat se mobilise, ils se rendent compte que ce qu'on nous fait croire dans les médias ou le gouvernement, dire, ouais. C'est que c'est pas une question intermittente.
Voilà, j'allais y venir justement sur cette question des médias qui relaient le truc comme étant que un mouvement d'intermittent, sauf que c'est très loin d'être ça puisque ça concerne, on le répète, tout le monde. Mmh. Voilà. Je sais qu'il y a différentes propositions qui ont été soumises par le collectif Unitaire 69. Manu, est-ce que tu peux nous parler de ces différentes propositions?
Alors en fait, il y a eu des propositions qui ont été faites par le comité de suivi qui du coup depuis 2003 planche un peu sur le statut des intermittents essentiellement, et là je serais pas en capacité de répondre, mais je pense que mes camarades intermittents y arriveront mieux que moi.
Futurs intermittents
y arriveront mieux que moi. Et par contre nous on a des propositions du coup qui concernent un peu plus le régime général, un peu plus enfin tous les régimes en réalité, et qui sont moins spécifiques. Du coup nous on demande à ce qu'il y ait un fin des délais de carence. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, en fait, même si on gagne 600 € par mois, enfin, si on a une indemnité de 600 € par mois, il faut savoir que le premier mois, on a au minimum 7 jours de carence. Ouais. Qui sortent de nulle part, qui du coup arrivent comme ça, ils foutent les gens dans la merde pendant, du coup, un tiers du temps de leur premier mois où ils sont vraiment en galère.
D'accord.
On veut bien sûr garder les annexes 4, 8 et 10 et revenir sur les accords de 2003, parce que, pour tout ce qu'on a pu expliquer avant. On demande à ce que les gens aient des indemnités jusqu'au retour à l'emploi, parce qu'en réalité aujourd'hui, enfin si les gens ont pas d'emploi, c'est pas de leur faute, c'est pas qu'ils veulent pas un emploi malgré ce que certains médias voudraient nous faire croire et le gouvernement voudrait nous faire croire. Si aujourd'hui il y a pas d'emploi, si les gens ont pas d'emploi, c'est parce que les entreprises leur proposent pas d'emploi. Il y a 6 millions de chômeurs et il y aurait 300 000 à peu près emplois vacants qui sont en réalité les emplois qui viennent d'être vacants et qui du coup n'ont pas encore été pris. Donc de toute façon il y a 5 700 000 chômeurs qui sont intrinsèques à ce qui se passe aujourd'hui, quoi, à l'économie d'aujourd'hui.
Ouais, j'en profite pour rappeler qu'il y a 6 chômeurs sur 10 qui ne sont pas indemnisés.
Ouais, en plus.
Et on demande aussi de l'augmentation des indemnités pour vivre convenablement, parce qu'aujourd'hui, faut savoir que les gens ont en moyenne, quand ils sont indemnisés, donc les 4 sur 10 qui ont la chance d'être indemnisés, ont en moyenne 800 € par mois. Donc 800 € par mois, c'est en dessous du seuil de pauvreté qui est à 950 € actuellement. Donc du coup, nous, on pense qu'il faut que les gens puissent vivre un peu mieux qu'actuellement, et du coup, on demande à ce qu'il y ait une augmentation du minimum d'indemnité aujourd'hui. D'accord. Qui n'existe pas. On est complété par le RSA si on n'a pas cette indemnité pour arriver au RSA. Et là, on pourra nous répondre de où est-ce qu'on trouve l'argent, etc. Le grand truc de on n'a plus d'argent, les caisses sont vides, oh mon Dieu, la crise. Sauf qu'en réalité, l'argent, on voit bien qu'il y en a, que les entreprises, elles en ont, que les patrons du CAC 40 et compagnie, eux, ils se font de l'argent. Ils ont augmenté de 30% leurs indemnités cette année. Donc c'est bien la preuve que si on veut trouver de l'argent, on peut. Et du coup, il faut par contre pas les prendre dans la poche de ceux qui en ont déjà plus, ou de ceux qui en ont si peu. Mais il faut bien la prendre dans les poches des patrons, du gouvernement, des entreprises.
De ceux qui en ont trop.
De ceux qui en ont trop, exactement.
D'accord, donc ça, ce sont les propositions qui sont faites par le collectif Unitaire 69. Il y a également des propositions, entre autres.
Ouais, enfin oui, c'est en discussion à chaque fois. On ne prétend pas dire que c'est ça les revendications de
D'accord.
tout le collectif.
Ok. Et il y a eu des propositions aussi faites qui ont été plus ou moins soumises, puisqu'elles n'ont pas été vraiment écoutées, concernant les intermittents. Est-ce que Jérémy ou Marie, vous pouvez nous en parler un petit peu?
Ouais, bah, au niveau des intermittents, il y a quand même depuis ce qui s'est passé en 2003, justement un comité de suivi qui rassemble des spécialistes, des acteurs de la culture, des parlementaires de tous bords. C'est des dossiers qui sont disponibles sur Internet. Je pense que les intermittents connaissent le sujet. Enfin, en tout cas, on a pris conscience des défauts et de ce qui est bien, de ce qu'on veut garder, de ce qu'il faut changer. Bien sûr, pour simplifier beaucoup de choses, beaucoup demandent le retour à la date anniversaire, c'est-à-dire les 507 heures en 12 mois. On sait aussi qu'il y a de l'abus chez les intermittents avec les permis, enfin du coup avec des employeurs qui emploient ce qu'on appelle des permittents, des permanents intermittents. Ça, on sait que ça existe et le comité de suivi a énormément de propositions à soumettre justement au groupe de concertation qui vient d'être mis en place. Et du coup, même si on se pose beaucoup de questions sur quelles propositions vont être écoutées, on espère beaucoup que cette commission rassemblant Hortense Archambault, Jean-Denis Combrexel et Jean-Patrick Gilles, qui était le médiateur nommé par Manuel Valls il y a un mois pour trouver une solution à ce problème. On met tous nos espoirs sur ces négociations, en espérant vraiment pour une fois, depuis 10 ans que ces gens travaillent autour du sujet de l'intermittence, soient écoutés. Et voilà, on met beaucoup d'espoir. D'ailleurs, l'ENSAT, qui aime bien écrire des lettres, a écrit une lettre qui sera envoyée au mail personnel d'Hortense Archambault, grâce à notre directeur Thierry Parian de l'ENSAT. Dans cette lettre, on lui donne un point de vue d'étudiant, qu'on se pose beaucoup de questions de pourquoi ça a été fait comme ça, pourquoi tous les syndicats du spectacle vivant n'ont pas été conviés à la table des négociations. Par exemple, le Syndéac, le Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles, qui eux demandaient un moratoire sur l'agrément, c'est-à-dire à négocier l'intermittent puis agréer. Pourquoi ça n'a pas été entendu? Pourquoi on négocie après? Du coup, dans cette lettre, on dit aussi pourquoi nous on a voulu s'engager dans des écoles de théâtre, parce que on a envie de faire vivre la culture. On aimerait en tout cas faire vivre la culture, et on espère que le système qui va être trouvé nous permettra de vivre de ça, même si on sait que c'est pas facile, c'est des galères. La culture, c'est pas non plus gagner des milliards d'argent et s'amuser. C'est énormément de travail, énormément de compromis. Dans cette lettre, on dit aussi qu'on est totalement ouvert à être rencontré par cette commission pour avoir notre point de vue d'étudiant, et qu'on demande une concertation juste et honnête de ces personnes-là.
Parce qu'on représente quand même le futur du métier, donc c'est bien de consulter les gens qui travaillent actuellement, ceux qui ont travaillé, mais on va rentrer dans 2 semaines, dans 1 an, dans 2 ans sur le marché du travail, donc on pense qu'on a un point de vue à défendre.
Tout à fait, c'est votre cas, vous, en tant que futur intermittent, mais c'est le cas aussi de tous les étudiants qui sont des futurs travailleurs, voire même, probablement pour eux et malheureusement, des futurs chômeurs. Anaïs, je crois que tu voulais prendre la parole.
Bah non, je crois que c'est la fin de l'émission, mais
oui,
c'était juste pour dire que dans cette offensive libérale du capitalisme en crise qu'on voit en fait apparaître partout en Europe, au Portugal, en Grèce, en Espagne, enfin partout, la logique du capitalisme, c'est de s'attaquer d'abord au salaire différé, ce que j'expliquais en fait au début d'émission, au salaire socialisé, salaire indirect, parce que si tu vas voir des travailleurs et tu leur dis demain en fait ton salaire il est baissé de 1% ou de 2%, il y a des organisations syndicales, il y a la possibilité d'une explosion sociale, mais si tu t'adaptes d'abord aux retraites, aux allocations, au chômage, au système en fait d'indemnisation, ce qu'on appelle le salaire indirect, il y a moins de capacité en fait pour le salarié en fait d'avoir des réponses collectives d'autodéfense, et donc du coup c'est pour ça en fait que il y a toute cette offensive depuis 20-30 ans quoi, et qui s'accentue en fait avec les effets de la crise économique, parce que l'argent pour les capitalistes il faut le trouver quelque part, il n'est pas question pour eux de toucher à leur profit, donc c'est dans nos poches en fait qu'ils viennent se servir quoi.
Ouais, c'est nos droits sociaux qui sont clairement attaqués quoi.
Simplement, je voudrais préciser que si vous voulez voir concrètement comment s'articule la mobilisation à l'ENSAT, faut venir à l'école. En ce moment, il y a la troisième production de l'atelier spectacle de la promotion sortante qui joue. Ça s'appelle Warren Breakfast et ça joue jusqu'au 4. Voilà, donc
juillet,
venez nombreux.
À 19h, à l'ENSAT, 4 rue Sorbouvier, à Lyon 5, avec des tarifs plus qu'accessibles parce que le tarif réduit est à 5€ et le tarif normal est à 10€. On est programmé sur les nuits de Fourvière. Je crois qu'on est le tarif le plus bas des nuits de Fourvière. Alors, c'est un spectacle à aller voir, c'est bien Warren Breakfast.
D'accord, merci. Le collectif Unitaire 69 poursuit la lutte. Il va y avoir différentes actions qui vont être menées. Pour pouvoir vous renseigner, n'hésitez pas à aller sur le Trump. Alors c'est un, j'ai du mal à le dire, le Tumblr.
Ouais.
Du collectif Unitaire 69. Moi, tout simplement, plutôt que de vous donner toute l'adresse, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans Google, j'ai tapé collectif Unitaire 69 et je suis tombée directement sur la page du Tumblr. Pardon. Là, vous avez tous les renseignements sur les actions qui vont être, qui sont à venir. Vous avez également, vous retrouvez les textes qui expliquent ce qu'est cette convention UNEDIC, quelles étaient les propositions qui avaient été faites. Enfin voilà, c'est très complet. N'hésitez pas à rejoindre ce collectif, à venir vous battre avec nous. Pour sauver nos droits. Voilà, on a besoin de vous, on a besoin de toutes les forces parce que, comme on le dit souvent dans le collectif Unitaire 69, ce que nous le défendons pour tous. Voilà.
Je peux juste rajouter un petit mot.
Oui. Quelque chose.
Juste un truc qui est génial, c'est quand même on montre qu'on arrive à se mobiliser grandement, que tous on est capable de s'informer, Internet et même. Certains médias sont quand même des sources d'informations fabuleuses. Il y a beaucoup de recherches personnelles. Et moi, je tiens vraiment à saluer notamment toutes les AG de l'ENSAT qui sont passées avec un respect énorme des temps de parole. Et franchement, c'est vraiment beau à voir. On a été soutenus par tous nos camarades pour préparer cette émission radio et venir. D'ailleurs, merci de nous avoir invités. Et du coup, voilà, je tiens à saluer quand même le travail de tous les gens qui font ça, quoi, qui créent, qui organisent des choses et qui écrivent des communiqués et qui propagent l'information, quoi. Je tiens à saluer tout le monde.
Très bien, merci. Donc je remercie Jérémy, Marie, Manu et Anaïs qui sont venus ici pour nous parler de cette nouvelle convention UNEDIC concernant l'assurance chômage. J'espère que pour toutes et pour tous, c'est un peu plus clair, que ça vous aura donné envie de nous rejoindre. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès du collectif Unitaire 69 pour Lyon. Mais si jamais cette émission a une portée un peu plus grande qu'à Lyon, n'hésitez pas à vous renseigner dans vos régions, dans vos villes, parce qu'il y a d'autres collectifs qui existent et qui luttent pour la même cause. Voilà ce que je peux dire.
Merci Amandine.
Je vous souhaite à toutes et à tous donc un très bon week-end, une bonne semaine. Moi je vous dis à la rentrée, puisque je ne serai pas là cet été avec le Théâtre de la Gamelle, mais le Théâtre de la Gamelle continue cet été. Alors n'hésitez pas à nous écouter le vendredi de 13h à 14h. Merci de votre écoute et au revoir.
Et sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardaires, snobles.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.